qu'il y a de plus précieux. Et c'est vraiment important de se souvenir de cela. Vous savez, qu'est-ce qui est le plus important pour des pasteurs expérimentés comme Michel ou comme Étienne? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à la fin de sa vie quand il écrit aux Philippiens? Il est tout à la fin de sa vie, l'apôtre Paul, c'est pas n'importe qui. Et il dit, mon but, c'est de le connaître, Jésus-Christ. Est-ce que l'apôtre Paul avait besoin de connaître Jésus-Christ? Est-ce que Michel a besoin de le connaître? Est-ce qu'Étienne a besoin de le connaître? C'est mon plus grand besoin. Un des versets qui me marque beaucoup dans Actes 4, 20, quand les apôtres sont malmenés, emprisonnés, et qu'on leur dit qu'ils doivent se taire parce qu'il y en a marre de leur religion, vous vous souvenez de ce qu'ils disent? Acte 80, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est fort, hein? Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et pourquoi moi, des fois, j'ai pu me taire? Parce que je ne connais pas assez Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Enfin, pour moi, pour vous, pour tout le monde, pour moi. Notre plus grand besoin, c'est de connaître, et je suis très content de lire un texte avec vous ce soir. En deux mots, oui, je suis pasteur à Mulhouse depuis 16 ans. Avant ça, j'ai été pasteur à Montpellier pendant 15 ans. Je suis gâté, hein? Avant ça, j'ai étudié au Canada, à l'école publique, et avant ça, à Paris, une école d'ingénieurs. Et avant ça, je viens du pays de Montbéliard. Ceux qui connaissent bien les accents l'ont reconnu. Et le Seigneur m'a permis de rencontrer Jacinthe au Québec, donc mon épouse, ma quatre enfants. Et j'ai un petit-fils qui a 2 ans et je bénis Dieu. Et mon dernier voyage, on en a parlé avec deux d'entre vous tout à l'heure, c'était à Madagascar au mois de juillet. Le troisième. Ça va maintenant. Ça fait 40 ans que j'ai envie d'y aller. À peu près. Parce qu'il y avait des camps malgaches dans mon village à Roche-les-Blamont, d'étudiants malgaches qui se retrouvaient. Et puis j'ai de très bons amis. Et Dieu a permis que j'aille. C'était la première fois en juillet avec l'IBG pour des cours d'été. 2 semaines de cours d'été et puis visite de l'île un peu, en particulier un hôpital à Mandritsar dans le nord, où 60 églises sont nées autour de l'hôpital. Tellement le ministère de l'hôpital est marquant dans la région. Et Dieu m'a beaucoup béni dans ton île, dans votre île. Et je bénis le Seigneur pour ce qui se passe là-bas. Voilà, mais je reviens au tout début de ma vie avec le verset que j'ai pensé méditer avec vous ce soir, Matthieu 11, 28. On a dit tout à l'heure que Dieu n'est jamais lassé, jamais fatigué. Et un verset qui m'a scotché, comme on dit, quand j'étais tout jeune enfant en train de lire ma Bible, le soir, je suis arrivé dans Matthieu, et à Matthieu 11, 28, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vais vous donner du repos. » J'étais un enfant, je n'avais pas de grands problèmes, j'avais une vie de famille sympa, ça allait bien. Mais ce verset m'a vraiment tellement touché que je n'ai pas pu continuer la lecture. J'étais scotché par ce verset. Dieu m'a permis de prendre un peu la mesure de ce qu'il dit là. Et j'étais là dans ma chambre d'enfant, en train de me dire, mais c'est fou ça. Le Dieu créateur de tout l'univers est en train de dire à Étienne, viens, je vais m'occuper de toi. Et c'est le Dieu dont on veut parler ce soir. Jésus dit à chacun de nous dans cette salle, viens, je vais prendre soin. Quand quelqu'un de fort, de capable, d'influent s'intéresse à nous, c'est encourageant. Et on ne mesure pas notre privilège quand on entend Jésus qui nous dit « Je veux m'occuper de toi ». Alors on m'a dit que vous travailliez quelquefois en petit groupe, et j'ai pensé que ça serait bien dans quelques minutes, si vous êtes toujours d'accord, ça marche,
ouais.
De faire des groupes pour préparer un petit peu la compréhension du texte qui précède, que je vais lire maintenant, pour que vous ayez cogité 15 minutes environ, pas beaucoup, pour qu'après, quand je propose quelques clés de lecture, vous les entendiez probablement mieux si vous avez un peu creusé le texte. Donc le verset, la perle que je mets devant nous ce soir, c'est Matthieu 11, 28, Mais vous savez tous que c'est important de remettre un verset dans son contexte. Il y en a qui sourient, c'est bien, vous connaissez la leçon. Donc je vais recommencer trois paragraphes plus tôt, au verset 16. Et il y a trois paragraphes avant cette perle, ce merveilleux appel de Jésus. Puis je vais les lire là, faire une ou deux remarques. Et ensuite, je vous propose, vous avez prévu combien de groupes? C'est qui l'organisateur? Bon, on peut en faire quoi? L'idée, 5 ou 6?
6.
Oh, l'idée, c'est que vous soyez environ 5 ou 6 par groupe pour que chacune, chacun puisse un peu s'exprimer. Si on est 15 dans un groupe, il n'y en a que 3-4 qui parlent. L'idée, c'est que vous soyez le plus libre possible pour vous exprimer. Et il n'y a pas de feuille à rendre, il n'y a pas de note. Il n'y a même pas un rapporteur spécial de chaque groupe. Ensuite, quand moi, je vous demanderai ce que vous avez trouvé, ceux ou celles qui veulent bien dire un mot le diront. C'est simplement pour vous donner l'occasion d'être devant le texte que je lis maintenant. Vous pouvez ouvrir vos iPhones, vos iPads, vos Bibles, vos parchemins, ce que vous avez, ou vos oreilles en tout cas. Matthieu 11, verset 16. C'est Jésus qui parle, et voilà ce qu'il dit. Matthieu 11, 16. À qui comparerais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent: c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. À mon avis, on a un premier paragraphe. Hein. Tout à l'heure, je le relirai. Et dans les groupes, vous essayerez de trouver la leçon principale. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Jésus, avec cette histoire de flûte, de danse, de... Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Deuxième paragraphe, versets 20 à 24. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Voilà le deuxième paragraphe que je vous proposerai de creuser un petit peu dans quelques minutes. Ces villes, c'est des villes de quelle époque? Sodome, Gomorre, des histoires, elles se trouvent où? Ancien Testament. Et il y a eu des jugements terribles sur ces villes, elles ont été détruites. Et Jésus parle à des villes de son temps, à Capernaum en particulier, à Chorazin aussi, Bethsaïda, et il leur dit: mais c'est incroyable, comme vous avez, comme vous avez le cœur dur, vous voyez tellement plus de choses qu'elles, et vous ne plongez pas. Troisième paragraphe, 25 à 27, et après on arrive à mon verset clé. 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Troisième paragraphe. Qu'est-ce qui arrive à Jésus là? Tout à coup, il crie de joie. Pourquoi? Parce que le Père a caché la vérité. À mon avis, c'est surprenant. À première lecture, on a qui hoche de la tête, après on se comprend. Jésus dit: je te loue, Père, ce que tu as caché. Oups. Je vais aller essayer de creuser pour comprendre pourquoi Jésus est heureux. Devant quelque chose, et je vous donnerai quelques clés ensuite, devant quelque chose qui, à première lecture, ne colle pas bien avec ce qu'on appelle un sujet de reconnaissance, un sujet de joie. Et ensuite, le verset clé, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Que Dieu bénisse sa parole. Il nous aide à la méditer ce soir. Et donc, je vous propose 15 minutes environ. Si vous, vous arrivez à faire des groupes, hein, vous restez dans la salle ou vous changez de salle pour les groupes. Si vous le répartissez dans la salle, c'est peut-être à peine plus simple. Si ça joue, ça c'est du suisse, c'est pas du québécois. Si ça marche, ça c'est du français. Comme ça, moi, je relis le texte, les trois paragraphes.
Ça nous rythme dans
et ça rythme un peu les groupes. C'est jouable ?
Ouais,
c'est
super.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Essayez de faire des groupes. De 5, 6.
Quand je lis le texte biblique, je ne dis aucune bêtise. Quand je fais des commentaires, je demande à Dieu, c'est une prière qui a été exprimée tout à l'heure, que je sois en grande partie un canal conduit par lui, et du coup, c'est du bon, c'est du vrai. Ce qui vient de Dieu, c'est du bon, c'est du vrai. Premier paragraphe. Ces histoires de flûte, de gens qui dansent ou ne dansent pas. Est-ce que quelqu'un veut se lancer, ça veut dire comment il résume. Voilà. Il y a des rapides ici. Comment tu résumerais un peu ce paragraphe? Qu'est-ce que Jésus nous dit?
C'est les difficultés des gens.
Ouais.
Ce sont des métaphores en fait.
Oui.
Jésus dit ben, je suis agité pour vous faire. Pour vous faire sourire,
ouais.
Et vous n'avez pas souri.
Ouais.
Et finalement, je me suis. J'ai chanté un chant de.
Tristesse.
De tristesse, ouais. Et vous n'avez pas pleuré.
Ouais.
Après, il dit. Jean, on parle de Jean le Baptiste.
Ouais.
Et Jean le Baptiste, il dit. Il est venu, il n'a pas bu, il n'est pas un ivrogne, il n'est pas un mouton. Il a dit oh, Jean, un démon. Et moi, Dieu, il dit. Moi je bois, je mange, et vous dites, oh, regarde, c'est un ivrogne de temps.
Mm-hmm.
Donc c'est Jésus en train d'attaquer non seulement les crédulités des gens, mais mm-hmm. aussi leur vision superficielle.
Ouais.
Comme le cadeau que Jean leur apportait, le cadeau que Jean apporte et que Jésus apporte est le même, c'est juste qu'il jugeait la forme. Quoi. Il se dit, oh, regarde, ouais. Jean. Jean, il vous apporte le cadeau d'une certaine forme. Au lieu d'ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous avez mis votre temps pour aller.
Ok, tu as beaucoup de textes en tête.
Ouais.
Et finalement, comment on peut résumer ça? Jean-Baptiste, il représente celui qui fait la fête ou celui qui est plutôt austère? Austère. Et Jésus, on s'en doute pas toujours, nous. Dans l'exemple que Jésus donne ici, il est plutôt du côté de ceux qui sont sérieux, un peu droits, ou de ceux qui font un peu la fête. Jésus. Fait un peu la fête? C'est vrai ça? Il est allé dans des mariages, il a changé de lot en main, il est allé avec des gens qui étaient rejetés, puis il a fait des repas chez eux. Et donc, un résumé que je vous propose, c'est que Jésus dit, vous êtes insensible, vous n'êtes jamais content. Il y en a un qui est triste, vous n'êtes vous pas d'accord. Il y en a un qui est trop joyeux, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes jamais content. C'est ça qu'il leur dit. Et puis plus globalement, il leur dit, mais vous ne réagissez pas. Vous ne réagissez pas, vous êtes là dans votre coin. Et nous, on peut faire ce qu'on veut, on fait de la flûte, on ne fait pas de flûte, on danse pas, vous ne réagissez pas. Et du coup, on arrive à l'application des DGBUCIens ici. OIA, observer, interpréter, appliquer. C'est un fantastique repère pour méditer un texte biblique. Et donc j'en arrive à l'application, une fois qu'on a à peu près compris ce que Jésus dit. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore pertinent comme paragraphe à méditer? Est-ce que ça nous concerne, nous, dans cette salle, ce que Jésus dit? Si vous répondez par oui, non, c'est pas mieux. Oui, bravo! Du coup, est-ce que c'est moi qui m'y colle? Oui, fortement. C'est tellement facile de faire la sourde oreille. C'est tellement facile de ne pas trop s'occuper de ce que Jésus dit. C'est beaucoup plus facile que de l'écouter. Donc aujourd'hui, ça reste très très pertinent comme interpellation. Est-ce que nous, on écoute vraiment Jésus? Est-ce qu'on est vraiment réactif? Parce que écouter vraiment, il y en a qu'on fait un peu du grec dans la salle, non? Bon, ça vous arrivera peut-être un jour, il y en a un peu. Quelque chose que je trouve amusant, n'ayez pas peur. Je vais vous dire quelque chose d'amusant, d'intéressant. Écouter en grec, ça se dit comment? Akouo, acoustique, tous les mots qui viennent de akou, hein, ça c'est écouter. Et obéir en grec, ça se dit up akouo. Écouter vraiment. C'est intéressant. Quand ma maman, on va retourner 50 ans en arrière, quand ma maman me disait de faire la vaisselle, et que je ne la faisais pas tout de suite, et que ma maman me disait, est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit? Est-ce qu'elle se demandait si mes oreilles fonctionnaient? À votre avis?
Non.
Bien, bien répondu. Mais elle me disait, vous avez entendu ce genre de phrase? T'as entendu ce que je dis? On peut se dire entre amis, mais t'as entendu ce que je dis? Quel est le problème? C'est que l'autre n'en tient pas compte. Ou en tout cas, on a l'impression qu'il n'en tient pas compte. Donc vraiment entendre, c'est obéir. Est-ce que moi, j'entends vraiment l'évangile? Hélas, pas toujours. Parce que je ne le mets pas constamment en pratique du lundi matin au dimanche soir en passant par le mercredi, le jeudi. Si j'écoute vraiment l'évangile, je vais le mettre en pratique et ça va se voir. Donc écouter vraiment, réagir à l'évangile, c'est une vraie interpellation. Paragraphe suivant, l'histoire des villes. J'ai entendu dans les groupes un tas de choses vraies. Est-ce que quelqu'un peut dire une chose qui lui tient à cœur là, concernant ces villes? Qu'est-ce que Jésus dit à ces villes, là encore, qui ne réagissent pas beaucoup, alors qu'elles ont vu beaucoup plus que les villes de l'Ancien Testament? Est-ce que quelqu'un veut le dire avec ces phrases à lui?
Vas-y. Oui, peut-être qu'il était à... On a oublié de Jésus à côté.
Oui.
Oui. Ils étaient incapables de trouver la vérité que Christ avait lorsqu'il était présenté sur le plateau.
Oui.
Et quand il dit que Dieu cache sa vérité au sage aux intelligents et la révèle.
Attends, au paragraphe suivant, mais tu n'as pas de dire. Vas-y, finis ta phrase quand même. Tu as de l'avance. Je t'ai dit que tu as de l'avance. Finis ta phrase.
Il nous invite à prendre. À prendre votre pile à assimiler pour écouter des ordres.
Tu as tout juste. Tu as simplement un peu d'avance, mais tu as tout juste. Concernant ces villes, il leur dit, de façon un peu plus solennelle que le paragraphe d'avant, c'est pas à quel point ils ne voulaient pas entendre. Comme tu l'as dit, là tu étais encore dans le paragraphe, ils ont Jésus avec eux. Quand il y a un grand orateur qui passe, pas moi, un autre, les foules se déplacent. La génération d'avant, quand il y avait un Billy Graham, des gens comme ça, pour quelqu'un qui est vraiment pertinent à notre époque, certains d'entre nous se déplacent facilement pour des Don Carson, ou des John Piper, des gens comme ça, des gens très très instruits dans la parole de Dieu, on a envie de les entendre. Et eux, ils avaient qui? Jésus. Et pourtant, est-ce qu'ils ont automatiquement tous cru?
Non.
Est-ce que les miracles, il est question de miracles, est-ce que les miracles ont fait qu'ils ont tous cru?
Non.
Est-ce que les miracles n'ont pas aidé plusieurs? Oui. Oui. Est-ce que les miracles suffisent pour qu'on croit?
Non.
Moi, j'ai souvent rêvé d'en voir plus. Je vous le dis, ça va, je suis honnête. En me disant, quand même, ça serait un bon petit coup de pouce à ma foi. Et il y a une histoire très vieille de la Bible qui me laisse bavard. L'histoire de la manne, les 40 années dans le désert. Vous n'avez pas l'impression, vous, que ça irait mieux dans votre foi si tous les matins vous aviez un miracle? Ce serait pas mal, non? Tous les matins, on se lève, un miracle. C'est ce qu'ils avaient dans le désert. Ils se levaient la main, bim. Le sabbat, rien. La veille, deux fois. Tous les matins, un miracle. Vous avez déjà pensé à ça? Est-ce qu'ils étaient tous des croyants zélés? Mon œil. Murmure, désobéissant. Et tous les matins, ils avaient quoi?
Un miracle.
Mais pas n'importe quoi, un vrai. Un gros costaud, hein. C'était pas, moi, j'avais un peu mal, puis j'ai plus mal, non. C'était un vrai, vrai, vrai. Et ça, ça nous dit à quel point notre cœur a du mal à vraiment écouter Jésus. Pourquoi ? J'ai pas de réponse toute faite. Vous avez des petites idées ? Pourquoi notre cœur a tant de mal à écouter Jésus, même, enfin Dieu, dans l'Ancien Testament, je ne veux pas faire d'anachronisme, Dieu, même quand on a un miracle tous les matins, c'est quand même fou. Qu'est-ce qui peut un peu expliquer qu'on soit dur d'oreille ? Vous avez deux, trois petits bouts de réponse ? Ouais.
Je pense à Jean chapitre 9,
ouais.
Où dans un verset, il dit que les hommes ont les ténèbres de Jésus.
Oui, mais ça c'est une réponse, mais c'est triste. Hein. On préfère l'obscurité aux ténèbres, à la lumière. Et on rejette Jésus. Une réponse très triste que la Bible nous donne un peu tout le long, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est qui nous pollue ? Le péché. On est, c'est pas de bol. Je ne sais pas comment le dire avec des mots les plus percutants pour vous. On est pollué par le péché. Toute l'humanité. Et puis là derrière, la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qui veut notre mal. On ne va pas mettre toute la faute sur lui. On a nos responsabilités. Mais Satan fait qu'on n'obéisse pas à Dieu, qu'on n'écoute pas. Quelqu'un qui nous dit quelque chose de merveilleux. On va y revenir dans quelques minutes en conclusion. Et c'est incroyable ce qu'il nous dit. Et Satan se débrouille pour qu'on n'écoute pas trop. Donc, deuxième paragraphe, nous rappelle que les miracles ne suffisent pas. Ils sont des bons outils dans la main de Dieu. Mais il ne faut pas être trop jaloux quand on n'en a pas beaucoup. Il faut se dire, ok, quoi qu'il en soit, ce n'est pas ça qui est déterminant. Ça peut aider, Dieu peut utiliser les miracles. Mais ce n'est pas ça qui est déterminant, la preuve. Le million de personnes qui avaient un miracle tous les matins, ils étaient drôlement dans le décor. Ils n'étaient pas du tout exemplaires, très croyants, pas du tout. C'est fou. Hein. Troisième paragraphe. Jésus dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, intelligents, et, je dis le être est fort, de ce que tu l'as révélé aux petits. On ne peut pas comprendre ce verset si on fait quoi ? Si on sort de son contexte, plus simple encore. Si on lit que la moitié. Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. Si on s'arrête là, vous pouvez passer toute la nuit, vous ne pourrez pas comprendre. Jésus ne peut pas se réjouir de ce que l'évangile soit caché. Okay. Mais quand on lit tout, on peut commencer à comprendre pourquoi, où va Jésus. Je te loue de ce que tu l'as caché aux sages, aux intelligents, et de ce que tu l'as révélé à qui ? Aux enfants, aux petits. Ça ne nous rappelle pas beaucoup d'autres choses de l'évangile. Qui c'est qui reçoit le royaume de Dieu ? Les enfants. À qui est-ce qu'on doit ressembler ?
Les enfants.
Et dans les choses un peu paradoxales, la maturité chrétienne, j'ai bien dit la maturité, c'est de devenir comme un enfant.
Vous réfléchirez à ça cette nuit.
Il ne s'agit pas d'être des enfants au sens de manquer de jugement, manquer de discernement, manquer de connaissance, etc. C'est bien évidemment une image de confiance, de simplicité, de dépendance, d'amour, d'humilité. Et les autres qui n'ont pas compris, c'est qui ? Oui, non, mais ce n'est pas grave d'être intelligent. Il y a sûrement dans la salle. Ce n'est pas grave, n'ayez pas peur. Vous êtes intelligent. N'ayez pas peur, vous ne sauvez pas. Qu'est-ce que dit Jésus ? Tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. J'ajoute dans ma paraphrase, dans ma méditation avec vous, en tant que tel, aucun sage intelligent ne va trouver l'évangile parce qu'il est sage. Et pourquoi Jésus est content ? Mais parce que, heureusement, que ce n'est pas parce qu'on est une élite qu'on peut trouver l'évangile. Heureusement qu'il ne faut pas être super doué en tout pour comprendre l'évangile. Heureusement qu'il ne faut pas être à Bac plus 8 pour comprendre l'évangile, vous êtes d'accord ? Heureusement. Mais ce n'est pas grave d'être à Bac plus 8. Mais ce n'est pas ça qui va nous permettre de trouver l'évangile. Et quelquefois, ça peut même gêner. Pas toujours. Il y a des personnes qui, à force de creuser la Bible à un très haut niveau, ont été touchées par le message de l'évangile.
moi, des professeurs de très haut niveau m'ont fait pleurer de joie sur la beauté de l'Évangile. Hein, donc c'est pas grave d'être instruit, n'ayez pas peur. Instruisez-vous, creusez la parole de Dieu, faites des études publiques, tout ce que vous voulez. Mais ce texte nous dit que c'est pas parce qu'on est intelligent et instruit qu'on va trouver l'Évangile. Heureusement, c'est pas réservé à ceux qui sont l'élite intellectuelle. Mais est-ce que l'élite intellectuelle peut recevoir l'Évangile? Oui, bien sûr. Il suffit que ils se reconnaissent petits. Et il y a des très grands intellectuels qui se reconnaissent petits. Mais l'Évangile est offert à tous, et ça c'est merveilleux. Et j'en arrive à mon verset. Qu'est-ce que dit Jésus après tous ces, après ces trois paragraphes qui vous ont fait transpirer et que vous avez un peu mieux en tête maintenant, et moi aussi en me méfondant de les cogiter avec vous? Qu'est-ce que dit Jésus? Venez à moi. Vous tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Donc on est devant l'annonce, l'offre de l'Évangile à tous. Une offre très généreuse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Trois remarques devant ce merveilleux verset. Premièrement, Jésus peut. Deuxièmement, Jésus veut. Troisièmement, il nous faut répondre. Voilà, vous avez ma conclusion. Premièrement, Jésus peut. C'est bien beau de dire, de faire des grandes promesses. C'est une grande promesse, hein. Venez à moi, vous tous, quels que soient vos problèmes, fatigués, je vous donne le repos. C'est une grande promesse. Il y a des gens qui font des promesses aujourd'hui? Ouais. Est-ce qu'ils les tiennent tous? Non, enfin, on ne fait pas de politique, stop. Il n'y a pas que la politique. Il y a des scientifiques orgueilleux, vaniteux, qui prétendent tout savoir. Il n'y en a pas trop, heureusement. Ça existe. Il y a des gens de notre rang qui font des promesses bien au-dessus de ce qu'ils peuvent tenir. Mais ce qui est très fort avec ce verset que je vous propose de prendre par cœur, et de garder dans votre tête et dans votre cœur, dans les jours et dans les années qui viennent. Ce qui est très fort, c'est que celui qui a dit cela, il peut le faire. Qui c'est qui l'a dit? Jésus. Et c'est qui Jésus? C'est Dieu. Qu'est-ce qu'il a créé l'univers? Une des phrases les plus simples qui me dépasse, c'est de dire que Jésus est présent dans cette salle. C'est simple, hein, les mots. Jésus présent dans la salle. Ça va être compliqué. Mais quand on dit ça, on dit quelque chose d'incroyable. Le Créateur de toutes les étoiles, de tout l'univers, est parmi nous. Vous y croyez? Que Dieu nous aide à le croire. Et c'est lui qui dit, venez à moi, je veux prendre soin de vous. C'est pour ça que le petit bonhomme qui vous parle, il y a 50 ans, tout à coup, il a été scotché. Dieu lui a permis d'un peu commencer à comprendre ce verset. Mais c'est incroyable. Le grand Dieu de tout l'univers me dit, je veux m'occuper de toi. Dans tes études, dans tes soucis personnels, dans tes soucis de famille, dans tes soucis de voisinage, dans tes soucis d'avenir, dans tes soucis du passé, tout. Je veux m'occuper de toi. Qui c'est qui nous dit ça? Jésus. C'est pas un coach d'Alsace, de Toulouse, ou de Paris. C'est pas un grand gars, une grande dame. C'est Jésus. Premier point. Celui qui nous dit ça peut. C'est pas du tout une promesse en l'air. C'est le grand créateur de tout l'univers. Deuxième remarque de conclusion. Jésus veut. Quelqu'un qui est tout puissant. Il y a des gens sur Terre beaucoup plus puissants que d'autres. Par leur avoir, par leur richesse, par leur autorité qu'on leur a déléguée, etc. Je veux dire quelque chose de très affolant. La réponse est évidente. Est-ce que quelqu'un de puissant est forcément bien disposé? Est forcément bon? Aïe, aïe, aïe. Ça fait quelquefois l'effet inverse. Il y a des gens qui étaient plutôt bien orientés, qui, par la puissance ou les richesses, ont la tête qui leur tourne, comme on dit.
et qui deviennent beaucoup plus égoïstes, orgueilleux et tout le bazar. Qu'est-ce qui est merveilleux avec Jésus? Premier point, Dieu peut, Jésus peut. Quand il promet ça, ce n'est pas de la part. Deuxième chose merveilleuse, il veut. Jésus veut notre bonheur, plus qu'on peut le chanter, le dire, le méditer, le comprendre. Il veut notre bonheur. À votre âge, j'ai souvent prié à genoux que Dieu m'aide à croire qu'il veut mon bonheur, quand j'avais du mal à l'obéir. Entre autres, la grande question sentimentale, la question du mariage, etc. Si on est convaincu que Jésus veut notre bonheur, on va lui obéir, oui ou non? Eh oui. Si on a l'impression qu'il oublie certaines choses, on est tenté de faire à notre idée. Mais Jésus veut notre bonheur beaucoup plus qu'on arrive à le comprendre, à l'imaginer. Jésus veut nous donner le repos. Et le repos, dans l'Ancien Testament, il était symbolisé par quoi? Qu'il y a un mot, pardon, ça va, oui. Et dans le Nouveau Testament, le repos, ça devient surtout un synonyme de quoi? Pour ceux qui veulent des références bibliques, il y a Hébreux 4 en particulier, qui nous dit, j'ai voulu qu'ils entrent dans le repos, mais ils ont pas écouté ma voix, ils ont mal marché, mais maintenant je viens vous redonner le repos, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est quoi le repos aujourd'hui? Dans le Nouveau Testament, à la lumière de tout ce que Jésus-Christ a dit, tout l'Évangile, le repos, bien sûr que c'est bien de se reposer au sens littéral. Et ma femme dirait, oui, écoute ce que tu dis. Et il faut se reposer, il faut prendre des temps d'arrêt. Mais aussi dans la Bible, c'est souvent synonyme de quoi le repos? Qui c'est qu'a dit?
Le repos de l'âme.
Le repos de l'âme, oui. La paix intérieure, la joie. On va arriver à un mot-clé de tout l'Évangile. Pardon? Le salut! Hébreux 4, pour ceux qui veulent des preuves bibliques, Hébreux 4 vous dit clairement que le repos dans lequel Dieu veut qu'on entre, c'est le salut. Venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés, vous entrez du repos. Ça vous arrive d'être fatigué, chargé, ras-le-bol, j'en ai marre? Moi, oui. Pourtant, je suis plutôt un optimiste, plutôt un battant. Mais il y a des moments. Mais Jésus est celui qui peut toujours, toujours nous aider à faire le pas suivant et qui peut toujours nous accorder la paix intérieure. Et le repos. Premièrement, Dieu peut. Deuxièmement, Dieu veut. Troisièmement, qu'est-ce qu'il reste à faire? Est-ce que tous les hommes de la terre, aujourd'hui, sont dans le repos, dans le calme, ils vont s'endormir calmement tout à l'heure? Non. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est le problème? Est-ce que Dieu peut?
Oui.
Oui. Est-ce que Dieu veut?
Oui.
Oui. Qu'est-ce qui cloche?
La chance.
Non. Quel est le troisième point de ce verset? Il y a d'autres façons de le découper. Dieu peut, Dieu veut, qu'est-ce qu'il faut à la fin? Il faut qu'on accepte. On est devant un appel. Est-ce que Dieu annonce qu'il va faire en nous quelque chose sans qu'on bouge? C'est quoi les paragraphes d'avant? J'ai fait de la flûte et vous n'avez pas bougé. Il y a eu des miracles et vous n'avez pas bougé. Je te loue, Père, de ce que tu l'offres à ceux qui veulent bien répondre aux enfants. Et donc, la grande question pour nous ce soir, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cet appel merveilleux? Est-ce qu'on veut répondre ou est-ce qu'on veut simplement continuer à savoir résumer l'Évangile? Et moi, je vous dis en toute simplicité, je ne vous connais pas, mais j'ai envie. À mon petit niveau, je veux votre bonheur. Dieu le veut plus que moi, pour vous. Mais simplement passer quelques heures avec vous, c'est sympa. Et moi, je vous dis aussi que je vous souhaite de comprendre à quel point il faut qu'on réponde à cet appel. Dans la salle, il y en a peut-être qui ne sont pas encore en train de marcher avec Dieu, qui n'ont pas vécu la mise en route d'une vie chrétienne. J'espère, je demande à Dieu, il n'y a que lui qui peut, de vous donner envie de vous mettre en route. Parce que Dieu est celui qui donne le repos, la paix, le bonheur, le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Vous êtes prêts à rêver? Allez, on va rêver. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, tout ce qu'il y a tout le temps dans nos vies, quoi. Non. Mais tout ce que Dieu veut mettre dans nos vies. Vous imaginez des églises marquées par ça. Des écoles, des instituts, des universités, des villes, des quartiers marqués par le fruit de l'esprit. Ça fait rêver, non? Mais pardon?
Non, je dis que ça aurait été bien pour le mieux ça.
Oui. Mais Dieu veut le fruit de l'esprit pour chacun de vous. Encore un verset. À la fin de sa vie, sur terre, avant d'aller sur la croix, Jésus, dans Jean 13, a lavé les pieds des disciples. Et il a donné une leçon merveilleuse d'amour, de service, d'humilité. Et en dernier verset, je vous laisse celui-là, Jean 13, 17. Jésus dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc il y a deux conditions pour le bonheur. Il faut connaître, mais il faut répondre. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, comme certains d'entre vous ici. C'est un incroyable privilège d'entendre l'Évangile depuis qu'on est tout petit. Mais est-ce que ça suffit? Vous savez tous que non, je ne sais pas, ouais, tout le monde fait comprendre. Non. Ici, on est dans une salle calmement installée, on réfléchit, ça fait une petite heure qu'on lit un texte biblique en groupe, tous ensemble, que moi je vous parle des choses pour essayer de clarifier certains thèmes de ce texte. Est-ce que ça suffit d'entendre l'Évangile? Non. Moi, je dois y répondre. Alors, j'ai parlé de ceux qui ne marchent peut-être pas encore avec Jésus-Christ dans une vie chrétienne. Mais je voudrais m'adresser à tous ceux dans la salle qui marchent déjà dans la vie chrétienne. Est-ce que ce verset nous concerne? Nous qui marchons avec Dieu depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, moi c'est encore plus, je m'en rends compte. Oui. J'aimerais dénoncer un gros mensonge de l'adversaire qui dit qu'à des moments, c'est plus la peine de revenir à Dieu. Est-ce qu'un pasteur ou un chrétien qui vit la vie chrétienne depuis 50 ans peut encore revenir à Dieu? Mais bien sûr, constant, on peut toujours refaire notre ce verset et redire à Dieu, oui, je veux venir à toi, je veux placer ma confiance en toi. Je suis dans un grand carrefour de vie, j'en parlais avec Michel avant la soirée, dans mon ministère à l'église, il y a des choses qui vont bouger, on va faire de la place à des plus jeunes. Qu'est-ce que je dois faire? Écoutez celui qui me dit, viens, je veux m'occuper de toi. Vous êtes, vous, pile dans l'âge où il y a un tas de carrefours. Même si vous êtes chrétien depuis 10 ans, ce verset s'adresse à vous. Puisque Jésus nous dit à tous ce soir, je veux m'occuper de toi. Et il y a celui qui peut, qui veut, qu'est-ce qui reste? Il faut qu'on réponde. Il faut qu'on entende son appel. Et il faut qu'on décide de façon toujours plus profonde, entière, d'aller vers lui, de l'écouter. Et écouter vraiment, c'est quoi? Obéir. Ah, vous êtes fort en grec. Écouter vraiment, c'est obéir, c'est mettre en pratique. Et la grande promesse de Jean 13, 17, qu'est-ce qui va nous arriver? Si on sait ces choses et qu'on les met en pratique, qu'est-ce qui va nous arriver? Le bonheur. Qui va être heureux? Et il n'y a rien, je vais vous faire une confession, il n'y a rien qui pénalise plus ma vie intérieure, mon bonheur en Dieu, que mon relâchement devant le péché. Vous avez entendu ce que j'ai raconté? Il y a des gens pénibles dans les églises, peut-être pas ici, mais chez moi des fois, les églises que je visite souvent. Mais c'est pas eux, c'est pas eux qui font ma vie chrétienne, elle fait comme ça. Il n'y a rien qui assombrit plus ma vie chrétienne que mon propre relâchement. Il n'y a qui hoche la tête, que Dieu vous bénisse, si vous le croyez pour vous. Parce que du coup, on a la solution. Si on veut vraiment être heureux, il faut que tous les autres soient moins bénis. Il faut surtout que moi, je sois plus obéissant. Et c'est bien, c'est pas mal ça, non? On dépend moins des autres qu'on le prétend quelquefois, quand on dénonce tous ceux qui sont casse-pieds. Ça vous aide? La bonne nouvelle, c'est que la profondeur de mon bonheur ne dépend pas de la fidélité des autres. La profondeur de mon bonheur vient de Dieu, et ma responsabilité, c'est de me soumettre de plus en plus à Dieu. Si vous avez quelques minutes pour prier pour moi dans les jours qui viennent, priez pour que je sois plus obéissant. Et vous prierez pour mon but. Ça vous va? Je vous propose, on a encore 3 minutes, un temps de recueillement de 2-3 minutes où chacun repense à cet appel merveilleux de Jésus-Christ lui-même qui vous tend la main et qui dit « Viens, je veux m'occuper de toi, de A à Z. » Si quelqu'un veut prier à toi, qu'il le fasse, mais n'ayons pas peur d'un temps de silence, mais un cri du cœur peut sortir. Et dans quelques minutes, je terminerai moi par la prière. Oui, Seigneur, merci. Merci pour cet appel tellement rempli d'amour de ta part. Cet appel tellement vrai, tellement généreux. Merci parce que depuis des siècles, il a été entendu par des milliers de croyants qui ont saisi cette main que tu leur tendais et qui ont pu trouver le repos, la paix, l'apaisement. La paix intérieure en venant à toi. Seigneur, merci parce que ce soir, tu nous permets de méditer encore ces versets et je te demande de mettre tout au fond de nos cœurs par ton esprit et qu'il nous accompagne dans les heures qui viennent. Seigneur, je voudrais aussi te demander pardon ce soir pour toutes les fois où on fait la sourde oreille. Pour toutes les fois où on t'oublie, où on te met de côté, plus grave, où on n'a pas envie de faire ce que nous savons être ta volonté, parce qu'on a envie de faire notre petit truc à nous. Seigneur, je te demande pardon pour la peine que je t'ai faite, pour le malheur que j'ai mis sur moi et sur d'autres, toutes les fois où je n'ai pas obéi comme j'aurais dû obéir. Et puis tous ensemble, avec ce merci et cette repentance, on te demande de nous aider. Merci parce que justement ce verset nous enseigne que l'on peut aller vers toi, alors on le fait maintenant. Je demande de toucher le cœur ici de ceux qui peut-être n'ont pas commencé à marcher avec toi pour qu'ils le fassent sans tarder. Et je demande de toucher tous nos cœurs de ceux qui marchent avec toi depuis plusieurs mois, peut-être de longues années, pour que nous entendions encore ta voix nous dire « Viens, viens, ne pas touche pas tout seul. Écoute-moi, obéis-moi, suis-moi de toujours plus près. Seigneur, par ton esprit, fais ce que personne d'autre ne peut faire dans chacun de nos cœurs dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Merci.
Bonne soirée.